Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Gilles Legendre, député de Paris, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury, dernier de la saison, mais premier de notre invité, Gilles Legendre. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Benjamin Sportouche.
Pour votre grand jury et pour ce grand oral à mes côtés aujourd'hui pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bonjour Guillaume Roquette.
Adrien Gindre de TF1 LCI.
Bonjour Adrien Gindre.
La question en plus, c'est Daniel Berton, le secrétaire général CGT d'Aéroports de Paris, qui vous interpellera, Gilles Legendre, à propos du référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Et le grand jury, bien sûr, une émission interactive, vous y êtes habitués. Vous pouvez réagir en direct sur les réseaux sociaux, hashtag le grand jury. Et c'est Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL qui viendra relayer ces questions à notre invité tout à l'heure, en fin d'émission. Alors Gilles Legendre, vous êtes encore un peu méconnu et pourtant votre rôle est loin d'être négligeable. Patron des députés de la majorité à l'Assemblée, vous êtes un peu le chef de classe. Ça veut dire qu'au moindre couac dans vos rangs, ce sont les réformes du gouvernement qui sont menacées et vous qui en êtes tenu pour premier responsable. Ce qui fait dire à beaucoup de vos prédécesseurs que c'est le boulot le plus ingrat de nos institutions. Vous devez fidélité au gouvernement sans apparaître pour autant comme des affidés incapables d'émettre la moindre réserve. Depuis près de 10 mois que vous avez pris vos fonctions, maintenant vous tentez de trouver l'équilibre, non sans mal. La seule fois où vous avez émis un avis divergent, c'était sur les retraites, contre le report de l'âge de départ. Bien mal vous en a pris, vous avez été recadré par le gouvernement, on en reparlera dans la première partie de cette émission, puisque le dossier des retraites est un dossier sensible et que le gouvernement veut mettre en marche dès la fin de l'année. Sans compter aussi, vous concernant, quelques maladresses d'expression sur la trop grande intelligence, la trop grande subtilité des marcheurs face aux gilets jaunes. Mais est-ce le prix d'une franchise que beaucoup vous reconnaissent et que nous espérons voir à l'œuvre dans cette émission aujourd'hui?
Eh bien, nous allons essayer.
Alors, nous sommes partis tout de suite avec une première question que vous pose Guillaume Roquette sur les violences faites aux femmes. C'est aussi l'actualité de la semaine.
Oui, et Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes, vient d'annoncer un Grenelle des violences conjugales au mois de septembre. Avez-vous des propositions concrètes à faire sur ce sujet?
Oui, je pense que chaque Français partage la révolte et l'écœurement que le président de la République a exprimé hier. C'est juste intolérable. 74 femmes, depuis le 1er janvier, sont mortes sous les coups de leur conjoint, de leur mari, de leur compagnon. C'est insupportable. Ce mal-là, nous devons l'extirper, mais il est ancré au plus profond de la société. La loi est indispensable. Elle existe. Nous l'avons votée au mois d'août 2018, la loi dite Schiappa, qui ne concernait pas strictement les violences conjugales, qui concernait l'ensemble des violences sexuelles et sexistes, mais qui incluait les violences conjugales. Les dispositifs existent, les plateformes de signalement, le 3919 que les femmes doivent connaître, mais nous devons combattre un mal qui ne passe pas que
Alors,
par la loi.
Alors comment fait-on, Gilles Legendre? Parce que visiblement, cette loi n'a pas suffi.
La loi ne suffit pas parce qu'il faut mobiliser les esprits. Les deux ennemis à combattre, c'est du côté des femmes victimes l'inhibition, parfois la honte, et du côté des personnels de justice, de police, combattre les sentiments d'incrédulité.
Mais est-ce qu'il ne faut pas, Gilles Legendre, aussi des moyens? Vous dites qu'il faut mobiliser
les moyens,
les
ils sont. Je prends l'exemple du 39-19, 120 000 euros de plus. Les moyens, ils sont. Mais vous savez, pour qu'on puisse tolérer dans son entourage, dans son voisinage, de connaître des cas sans les dénoncer, ce qui arrive trop souvent, cela prouve bien que ça n'est pas uniquement une question de moyens, d'argent.
Quand même, 79 millions d'euros consacrés à cette cause, alors que c'est la grande cause du quinquennat, on estime l'association à 200 millions le budget nécessaire. À 500 millions, pardon. En Espagne, c'est 200 millions.
Eh bien, s'il faut augmenter le budget, on le fera. Ce sera l'objet du Grenelle des violences conjugales. Mais là-dessus, je voudrais faire une proposition très pratique.
C'est-à-dire combien vous êtes prêt à augmenter le budget?
Ce qu'il faudra, mais Benjamin Sportouche, je résiste parce que la vérité, c'est de dire que ça n'est pas une question d'argent. C'est une question de la société tout entière. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette proposition, c'est que les députés, nos députés, mais peut-être tous les députés, en tout cas ceux de la majorité, prennent une part décisive à ce Grenelle des violences conjugales. Vous en avez ici un certain nombre de représentants, comment, de mes collègues. Eh bien, je vais leur demander mardi s'ils sont d'accord pour s'engager sur leur territoire pour faire la promotion de ce Grenelle, y participer le cas échéant. Ça a été le cas lors du grand débat national. Nous avons largement contribué dans le sillage du président de la République au succès du grand débat national. Nous pouvons faire de cette cause un engagement des députés.
C'est-à-dire, vous en voulez localement ?
Preuve que les députés, certes, doivent voter la loi, mais qu'ils ne doivent pas se désintéresser de ce qui se passe
mais
ensuite.
Mais Gilles, concrètement, Adrien, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français sont coupables de passivité face aux violences faites aux femmes et aux féminicides.
Pas d'amalgame, pas de globalisation. Mais nous savons parfaitement que dans trop de cas, la loi du silence laisse prospérer des situations insupportables. Et donc, ce que j'aime bien dans cette proposition du Grenelle, c'est que précisément, elle vise à mobiliser la société. C'est vrai que c'est important la loi, c'est vrai que c'est important l'argent, c'est vrai que c'est important de mobiliser les policiers, comme le fait Christophe Castaner en nommant 73 psychologues qui peuvent agir au plus près des commissariats, ou quand on accélère la procédure judiciaire, où l'on veille que les faits soient facilement établis et reconnus, et qu'on surmonte le doute qui est parfois le plus grand obstacle à la vérité.
On va écouter tout de suite Caroline Dehas, qui était ce matin au micro de RTL. C'est une féministe engagée, on l'écoute.
On ne peut pas se dire qu'on va attendre encore 2 mois, 3 mois, 4 mois pour mettre en place des mesures qui vont changer radicalement les choses. Il y a des mesures d'urgence qui peuvent être prises tout de suite, avant les grandes vacances d'été. Monsieur le Président, on vous demandait un plan d'urgence. Vous nous proposez un rendez-vous dans 2 mois. Sincèrement, c'est décevant.
Voilà. Vous voyez ce qu'elle dit, elle s'adresse au président Macron.
Je suis désolé, je n'ai pas envie de polémiquer avec quelqu'un qui donne une grande partie de sa vie précisément à la lutte contre les violences conjugales. Je ne rentre pas dans une polémique de cette nature. Mais on ne peut pas dire qu'il n'existe rien. Les plateformes de signalement fonctionnent maintenant, à plein. Le numéro 3919 augmente ses appels. Ce qui est d'ailleurs le signe que peut-être on est en train de briser cette loi du silence. La garde des Sceaux, dès le mois de juin, a envoyé une circulaire à tous les parquets pour dire qu'il fallait accélérer, faciliter le recueil des plaintes, le dépôt des plaintes en ligne est en œuvre. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien de fait.
Bon, en tous les cas, vous dites, voilà, il faut en parler principalement. Autre sujet de société, bien évidemment, qui va être bien lancé très prochainement dans le cadre de la loi bioéthique, c'est la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Il y a dans vos rangs, eh bien, certains députés qui sont hostiles. À combien estimez-vous ce nombre de députés qui pourraient voter contre la PMA aujourd'hui dans La République En Marche ?
Je suis incapable de répondre à cette question et je suis très heureux d'en être incapable. Parce que le débat n'a pas commencé en notre sein. Il commencera au sein du groupe cette semaine, mardi, le 9, au sein d'une commission dont nous aurons peut-être l'occasion de parler très vite à la fin de l'été, au retour des vacances, et évidemment dans l'hémicycle, en commission et dans l'hémicycle au mois de septembre. Ce qui est certain, c'est que ce débat doit être à la hauteur des enjeux. Je vous reprends sur un petit point, Benjamin Sportouche. Cela ne concerne pas uniquement la procréation médicalement assistée, aussi la recherche sur les embryons et
bien
les cellules souches.
Bien sûr, mais vous savez que le droit aux origines, le point clivant,
les
c'est
diagnostics génétiques,
Gilles Legendre, vous le savez très bien.
Ce que je sais, et c'est pour ça que ce débat est crucial, c'est que nous devons y entrer avec la culture du doute.
Alors,
c'est-à-dire faire confiance dans le débat pour que chacun puisse se forger ses convictions, les conforter, les amender. Je voudrais qu'à l'issue de ce débat, l'Assemblée nationale, dans son ensemble, et pas simplement le groupe majoritaire, puisse dire aux Français, vous pouvez être fiers de nous.
Mais comment vous allez garantir un débat de meilleure qualité que ce qu'on a vu pour le mariage pour tous, où c'était en permanence
Alors Adrien Jeanne, je vais vous répondre, je suis extrêmement confiant. La volonté de mon groupe ne fait pas l'ombre d'un doute. Celle du MoDem non plus. Et je vous fais le pari que les groupes d'opposition sont dans le même état d'esprit. Nous voulons que l'institution qui va être chargée de faire la loi sur ces sujets puisse être fière de son travail. Très concrètement, j'ai pris la décision que je vais soumettre aux instances de l'Assemblée nationale, mais le groupe majoritaire a un petit privilège dans ce domaine, de créer une commission spéciale pour que précisément de toutes les formations politiques
puisse émerger des talents qui ont envie de s'investir dans ce travail, dans l'esprit que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire forger une conviction.
C'est-à-dire commission accessible à tous les groupes.
Ah ben ça, de toute façon, ouais. Les commissions de l'Assemblée nationale sont...
Donc vous conviez l'opposition et vous pensez que l'opposition va vous dire oui.
Ah non, mais sur le fait que la commission spéciale aura lieu, c'est une décision qui doit être validée, mais elle le sera. Et dès qu'une commission spéciale est composée, elle représente toute la diversité de l'Assemblée nationale.
Et est-ce que...
Heureusement. Mais nous pouvons peut-être aller plus loin. Je pourrais, sans aucune arrière-pensée, je m'empresse de le dire, je ne veux pas que ces lois fassent l'objet de la moindre instrumentalisation politicienne. Donc je pourrais éventuellement, ou nous pourrions, décider, entre présidents de groupe, que des représentants de l'opposition puissent exercer des responsabilités dans cette commission spéciale. Je ne sais pas s'ils le souhaiteront. Le fait qu'ils ne le souhaitent pas ne signifierait en rien que nous rentrions dans des logiques de combat. Mais je trouverais normal, comme ça a été le cas dans le passé, je pense à la loi Claeys-Leonetti, qui était...
Sur la fin de vie.
Sur la fin de vie, sujet qui n'est pas du tout le nôtre.
Mais là, sur la PMA ou sur toute la bioéthique ?
Ah ben, la commission spéciale est compétente sur la totalité des quatre aspects principaux des lois bioéthiques.
Qu'on soit concret, vous leur proposez la vice-présidence et vous en auriez la présidence, par exemple, vous en marche.
Ça peut même aller au-delà.
C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre la présidence ?
Ça peut se discuter. Je ne veux pas aller plus loin, parce que cette discussion doit avoir lieu avec eux, et je ne veux en aucun cas en faire un marqueur politique de quelque manière que ce soit. Je pense que nous avons là l'occasion, nous tous, responsables de l'Assemblée nationale, au premier plan, son président, avec lequel je me suis entretenu de cette proposition. Nous portons la responsabilité collective d'un débat serein.
Je parle
de Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale.
Est-ce que vous avez fait cette proposition à Christian Jacob, qui est donc
discussions que j'ai avec Christian Jacob et les autres présidents de l'opposition ne regarde pour l'instant que nous.
Est-ce que Agnès Thil, députée En Marche, qui a été exclue de votre groupe, notamment pour son opposition à la PMA, aurait sa place dans cette commission ?
Guillaume Roquette, je suis désolé de vous reprendre. Vous venez de commettre une énorme erreur. Agnès Thil n'a pas été exclue de notre mouvement et de notre groupe parce qu'elle était opposée à la PMA.
C'est ce qu'elle dit.
Oui, mais elle dit des inexactitudes. Elle a été exclue de notre mouvement et de notre groupe parce qu'elle n'a cessé depuis 18 mois autour de ces sujets de manier la provocation, l'ostracisation, l'exclusion.
Ma question, c'est est-ce qu'elle aura sa place dans cette commission ? Non.
Peut-être aura-t-elle sa place, elle reste députée, les non-inscrits auront évidemment une ou plusieurs places dans cette commission spéciale, mais j'insiste, Guillaume Roquette, parce que tout le monde a intérêt à entretenir cette illusion. Agnès Thil n'a pas été exclue pour son opposition à la PMA. C'est si vrai que, comme le disait Benjamin Sportouche au début de cette séquence, il y a d'autres députés qui, peut-être, vont exprimer, et j'espère qu'ils exprimeront leur opposition.
Auront-ils le droit à la tribune ? Est-ce qu'ils pourront
s'exprimer
au perchoir
de
l'Assemblée ?
Je ne peux pas prétendre d'un côté qu'il faut un débat serein, complet, profond, où on travaille en profondeur pendant près d'un mois et demi sur cette question, et considérer que tous ceux qui ne pensent pas comme l'opinion majoritaire, ou la majorité
contre.
De la majorité...
Ils pourront voter contre ce texte.
Oui. Oui, 100 fois oui, il y aura une liberté de vote sur ce texte.
Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes, Gilles Legendre, sur ce qui pourrait être l'étape suivante, la GPA, la gestation pour autrui. Il y a une question d'égalité qui peut se poser entre les couples de femmes qui vont avoir accès à la PMA et les couples d'hommes qui, eux, n'auront pas accès à la GPA. Est-ce que vous pouvez nous garantir aujourd'hui que, bien que la PMA soit instaurée en France, jamais la GPA ne verra le jour dans notre pays ?
Jamais la GPA ne verra le jour dans notre pays sous la présidence du président Emmanuel Macron et avec la majorité La République En Marche Modem à l'Assemblée nationale. C'est un engagement que nous avons pris devant les Français et sur lesquels nous ne reviendrons pas.
Mais comment pouvez-vous dire ça, Gilles Legendre, alors qu'on sait que le Conseil constitutionnel sera certainement amené à se prononcer sur cette question et qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une rupture d'égalité qui peut être constatée par le Conseil constitutionnel et donc vous imposer de mettre en œuvre la GPA ?
Eh bien, dans ce cas-là, si ça se produisait, ce qui me paraît être une hypothèse totalement fantaisiste, sauf votre respect, Benjamin Sportouche, si ça se produisait, ça ne serait pas la décision ni du président de la République, ni du gouvernement, ni de la majorité. Soyons très clairs, le débat que nous allons aborder contient des sujets extrêmement importants, extrêmement complexes, en sont exclus très clairement la GPA et tout débat de toute nature sur les questions de fin de vie et de suicide assisté.
Quand on entend... C'est vrai que quand, oui, quand on entend la ministre Muriel Pénicaud dire que la société française n'est pas mûre pour la GPA, ça laisse entendre que ça n'est qu'une question de délai et de temps.
Ici même au grand jury.
Guillaume Roquette, si vous êtes capable d'écrire l'histoire de notre société sur les 50 prochaines années, je vous admire. J'en suis incapable.
Certains pourraient considérer qu'on est opposé à la GPA par principe, pour des raisons de conviction, pas uniquement pour des raisons d'opportunité politique.
Par principe, nous y sommes opposés dans notre majorité. Le président de la République a été d'une clarté absolue pendant toute la campagne présidentielle, nous aussi pendant la campagne législative. Agnès Buzyn, qui va porter avec Frédéric Vidal et Nicole Belloubet ces révisions de loi bioéthique, est absolument ferme sur cette question. Vous savez, c'est aussi votre responsabilité, c'est notre responsabilité. Si nous voulons que ce débat se situe au bon niveau, soit capable de surmonter l'énorme complexité qu'il revêt, nous devons fuir avec la dernière énergie tout ce qui est ambiguïté, tout ce qui est fausse idée.
Quand vous parlez de GPA, alors c'est un message peut-être pour Muriel Pénicaud, en effet. Mais en tous les cas, si vous parlez de GPA ainsi, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui, en France, eh bien, ont eu des enfants par GPA, vous les condamnez aujourd'hui ?
Non, nous ne condamnons pas et nous savons qu'il y a un problème très spécifique sur la question de l'état civil des enfants nés sous GPA à l'étranger, par définition, à l'étranger. Il y a eu des décisions de justice qui ont été rendues là-dessus. Un enfant ne doit pas être pénalisé du fait des conditions de sa conception. Ça a été dit.
Donc ceux qui voudront faire une GPA pourront le faire à l'étranger, mais pas en France.
Mais Benjamin Sportouche, c'est déjà le cas.
Vous avez dit, Julien Legendre, à l'instant, que vous ne souhaitiez pas de modification sur le suicide assisté, l'euthanasie. Dans l'actualité, il y a le cas de Vincent Lambert. L'arrêt des traitements a été engagé mardi par son médecin. Des années de débats entre la mère, les parents et la compagne de Vincent Lambert. Est-ce qu'à l'issue de cette terrible histoire, vous ne vous dites pas qu'il y a un problème dans la manière dont les choses fonctionnent, que la loi n'est pas suffisamment claire, qu'il faut pouvoir modifier peut-être quelque chose pour éviter que de pareils cas se reproduisent?
Écoutez, je trouve ce cas d'une tristesse absolue. Et pour une fois, c'est d'abord une réaction personnelle avant d'une réaction politique que ça m'inspire. Et j'ai pas très envie d'aller plus loin. C'est un drame familial épouvantable qui s'est déroulé sur la place publique pendant des années. Il a été traité correctement, c'est-à-dire dans l'application de la loi et dans l'application des règles médicales. Je ne vois pas en quoi il nous obligerait à aller plus loin que ce qui a été déjà prévu par la loi Claeys-Leudetti, qui est notamment de lutter contre l'obstination médicale exagérée. Bon. Après, vous n'éviterez jamais des cas de cette nature. Même la meilleure des lois y parviendrait.
Donc vous êtes au suicide assisté,
je vous redis,
à l'aide active à mourir.
Je vous redis que ce n'est pas au débat et que ça ne lissera pas.
Et vous, personnellement, quelle est votre position là-dessus ?
Benjamin Sportouche, vous avez dit tout à l'heure que le travail du président de groupe était un travail ingrat. Il est surtout exaltant, il est surtout passionnant. Mais dans la petite zone d'ingratitude, il y a le fait qu'il doit parfois, contrairement à tous ses collègues, s'interdire de faire état de ses convictions personnelles les plus intimes.
Ce qui n'est pas facile pour vous.
Voilà.
C'est
pour ça que je suis obligé. Non, sur la PMA, c'est très différent, parce que la PMA est au programme. J'ai soutenu ce programme. Je suis totalement pour la procréation médicalement assistée pour l'ensemble des couples femmes homosexuelles et des femmes seules. C'était dans notre programme. Je fais partie de l'écrasante majorité de mes collègues qui sont sur cette position.
Adrien Gindre.
Vous ne vous faites pas de part de votre position personnelle, mais est-ce que vous avez rempli vos directives anticipées au cas
où
vous
avez un malheur ? Mais ça doit être dû à mon très grand optimisme et à la très grande cure de jouvence que représente pour moi l'engagement politique.
On vous le souhaite, mais en tout cas, vous ne l'avez pas fait. Est-ce que vous envisagez de le faire, c'est-à-dire directive anticipée pour savoir ce qu'on doit faire au cas où on se retrouve dans une...
J'envisage absolument de le faire.
D'accord. On passe à un autre sujet d'actualité, bien évidemment, le baccalauréat avec des troubles qui ont émaillé cette session 2019. Gilles Legendre, on se disait qu'on avait un ministre de l'Éducation qui avait réussi à faire plutôt le consensus avec les professeurs. Et là, on se retrouve face à une situation de blocage. Il y a bien une responsabilité du ministre dans cette affaire.
La responsabilité du ministre, c'est d'avoir trouvé la solution.
Ah, vous trouvez que la solution est idéale ?
Écoutez, quand il y a un conflit, les solutions idéales n'existent pas. D'abord, remettons les choses à leur place. 1% des copies concernées 700 enseignants faisant de la rétention de copies ou de notes sur 175 000 correcteurs. Donc, on n'est pas non plus dans l'affaire du siècle. Mais moi, ça m'inspire quelque chose. Je ne veux pas rentrer dans la polémique au moment où le ministre de l'Éducation a trouvé une voie de sortie parfaitement acceptable et parfaitement adaptée.
En mettant le contrôle continu à la place des notes de bac quand on les a.
En attendant qu'on ait les notes. Mais je trouve que ça pose un problème majeur qui n'est pas un problème d'ordre syndical, d'ordre social, d'ordre politique. C'est un problème d'ordre civique. Et quand je vois que des enseignants sont capables de faire de la rétention de copies qui ne leur appartient pas, prendre des enfants, des lycéens, en otage, alors que probablement ils sont en train de vivre la première grande épreuve scolaire de leur vie, symbolique ô combien, comme nous le savons tous dans notre pays, le bac, c'est un monument. Je trouve que ça pose véritablement un problème de civilité et de civisme.
C'est-à-dire qu'ils sont irresponsables pour
vous. Je pense qu'il y a d'autres moyens parfaitement légitime de s'opposer au projet du gouvernement, de s'opposer au ministre de l'Éducation nationale.
Est-ce que dans ce cadre-là, voilà, ils ont trouvé aussi une voie de se faire entendre.
Mais la grève existe, mais la contestation existe, le droit de manifestation est irréductible.
Donc ils doivent être sanctionnés.
Le bureau et le ministère sont envers en permanence à la négociation syndicale. Je trouve que là, il y a une ligne jaune qui a été franchie, qui me paraît choquante.
Et quelle réponse vous souhaitez ?
Eh bien, la réponse immédiate, elle a été trouvée. Le ministre décidera s'il y a lieu de sanctionner les comportements.
Est-ce que vous
les souhaitez, ces sanctions ? Je pense qu'elles ne seraient pas injustifiées, mais ce n'est pas moi qui suis responsable de ce dossier.
Mais est-ce que ça doit être simplement des jours de grève non payés, ou est-ce qu'il faut aller plus loin, prendre des sanctions disciplinaires, des suspensions, des révocations ? Vous dites, ces gens ne se comportent pas comme des profs. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont plus leur place dans l'éducation nationale ?
Je pense que les professeurs ont une obligation générale, en dehors de la discipline qu'ils enseignent, de favoriser le civisme, le respect des lois républicaines. Et je pense que tout professeur, et pas seulement ceux qui sont en charge de cette discipline, doivent porter ça. Et je trouve que c'est un très mauvais exemple de dire « quelque chose ne me plaît pas dans la République, je suis contre, eh bien, je prends en otage et j'enfreins la loi ».
Mais
ça n'est pas un bon exemple. Alors que la grève est parfaitement acceptable.
Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de Jean-Michel Blanquer de ne pas avoir su maintenir le fil du dialogue avec ses professeurs ? Ça ne s'était jamais vu.
Vous ne pouvez pas dire ça, Adrien Gindre. Le dialogue, il est maintenu en permanence. Et si on peut reconnaître une grande vertu, parmi beaucoup d'autres, au ministre de l'Éducation nationale, c'est d'avoir constamment sa table ouverte et son bureau ouvert.
Simplement,
mais vous savez, ça ne concerne pas que les professeurs, ça ne concerne pas que le bac. La question de l'incivisme dans notre société, la question de l'individualisme, je défends mon intérêt, le mien propre, et j'utilise tous les moyens personnels qui sont à ma disposition pour le faire, c'est une tendance large et contre laquelle nous devons lutter, pas simplement par de la sanction, par de l'éducation, par le vivre ensemble.
Donc de l'incivilité, est-ce que ça ne traduit pas aussi un malaise plus profond de cette profession dont les salaires, on le sait, les Français le savent, sont faibles ? Est-ce que par exemple, vous ne dites pas, oui, ça va plus loin, il faut qu'on aille voir plus loin quel est le malaise qui n'est pas pris en considération ?
Alors, aucun malaise ne justifie l'incivisme, mais en revanche, les malaises justifient l'action. Et nous, l'action, nous la menons. Depuis 2 ans, nous avons un ministre de l'Éducation nationale qui réforme l'école comme aucun ne s'y était engagé auparavant. Avec énormément de détermination, une connaissance intime de ce qu'il faut faire. La loi pour l'école de la confiance, qui a été adoptée de façon définitive, avec un accord assez étonnant, assez inattendu, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, vise précisément à réformer, à améliorer, et notamment à améliorer le sort des professeurs.
Vous parlez d'un civisme. Est-ce que vous condamnez de la même façon des actions comme celle d'écologistes qui bloquent des ponts de Paris à la circulation sans autorisation ?
Absolument. Je le condamne avec la dernière énergie. Aucune cause ne justifie qu'on se mette en infraction avec la loi. Aucune.
Mais attendez, là, sur ce pont, on parle bien de ces écologistes qui ont été aspergés de gaz lacrymogène. On a vu des images qui étaient quand même assez impressionnantes, choquantes, a même dit Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Vous, ça ne vous a pas choqué ?
Si, ça m'a choqué.
Vous avez été plus choqué par le fait qu'un sit-in qui était pacifique à ce moment-là, il y a de la désobéissance civile dans le mot d'ordre, mais voilà, sans violence, et face à eux, des gaz... Qu'est-ce qui a été plus choquant pour vous ?
C'est en droite ligne avec la conversation que nous avions à propos des professeurs. La montée de l'incivisme, sous des formes nouvelles, inédites. Vous avez dans certains pays des manifestants qui se collent la chaussure avec des colles fortes sur le bitume pour qu'on ne soit plus capable de les déloger. C'est des formes nouvelles d'incivisme, d'infraction à la loi, de manifestations non déclarées.
Sur les policiers, est-ce que vous, il n'y a pas un problème de curseur ?
Mais si, il y en a eu un qui a été d'ailleurs reconnu, puisque le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de police, Didier Lallement, un rapport sur cette question pour précisément vérifier qu'il n'y a pas eu des erreurs ou des fautes commises.
Sans compter qu'à Nantes, par exemple, aussi, il y a une action policière qui a conduit au fait qu'il y a une disparition d'un jeune homme, Steve, qu'on n'a pas retrouvé. Ce genre de fait, est-ce que pour vous,
il me choque profondément, mais un responsable politique ne peut pas se contenter d'être choqué ou d'être surpris. Un responsable politique doit aller trouver les solutions et les explications. Il est vrai qu'il y a aujourd'hui, nous l'avons vu de façon spectaculaire et bouleversante au moment des mouvements des Gilets jaunes et des débordements de violence auxquels ils ont donné lieu, nous avons vu qu'il y avait une évolution dans les modes de manifestation qui consiste à dépasser constamment les limites. Et que c'est vrai, la police, aujourd'hui, n'est peut-être pas encore complètement adaptée, formée et équipée pour faire face à ces débordements. Et c'est ça qu'il faut que nous trouvions.
Et donc, ce n'est pas forcément proportionné.
Et ce n'est pas forcément proportionné, ou tout simplement, les outils ne sont pas forcément adaptés. Comment vous décollez un manifestant qui se colle intégralement sur la porte d'un ministère ? Ça peut arriver, et ça arrivera certainement un jour en France. Je ne suis pas là pour leur donner des idées.
On parlera tout à l'heure, juste après la pause de la question, de la question des retraites, mais c'est tout de suite l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour Gilles Legendre, Daniel Berton, secrétaire général de la CGT Aéroports de Paris. Depuis le 13 juin 2019, tous les citoyens inscrits sur les listes électorales ont la possibilité de soutenir le référendum d'initiative partagée sur la proposition de loi pour un service public aéroport de Paris. Le site mis en place par le ministère de l'Intérieur s'avère complètement obsolète et défectueux, avec une absence de compteur qui nous permettrait de mesurer, et nous, les citoyens et les journalistes, la progression de ces soutiens. Pour une majorité qui se veut moderne et qui défend le numérique, c'est accablant. La question qui se pose, c'est est-ce que cette majorité n'a pas peur du résultat de cette consultation ?
Gilles Legendre, sur Aéroports de Paris.
Alors, la majorité n'a jamais peur du suffrage, qu'il soit universel ou pas universel, référendum. Quand on donne la parole au peuple, c'est bien à tel point que le référendum qui est en train d'essayer d'être organisé par une alliance assez insolite, qui va de M. Mélenchon à M. Carrez, ce qui est assez surprenant. Mais après
vous
tout, pourquoi
dire
pas
que vous respectez le choix des Français, si c'est le choix de ces formations, il est légitime.
Il est parfaitement légitime, mais à tel point que nous proposons même que ce référendum, on puisse y accéder plus facilement, avec des seuils rabaissés. C'est dans le projet constitutionnel
mais
que, que nous avons
cas,
défendu.
Vous êtes allé voir comment il fallait faire
On pourrait aussi accéder plus facilement au site internet.
Je suis allé voir.
C'est pas trop compliqué pour vous.
Non. Alors, d'abord, ça n'a jamais eu lieu, ce référendum. Et donc, qu'on ait réveillé un site vite fait et qui ne soit pas absolument optimal, on peut le comprendre. Mais il y a un point contre lequel je m'inscris absolument en faux, c'est l'idée du compteur. Ça n'est pas le ministre de l'Intérieur qui a décidé qu'on ne puisse pas savoir au fur et à mesure de l'incrémentation des votes quels étaient les résultats. C'est une disposition de respect du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui a la validité du contrôle des opérations électorales.
Avant la pause, est-ce que ce serait un drame pour vous si la privatisation d'Aéroports de Paris n'avait pas lieu ?
Ce n'est pas un drame pour nous. C'est une très mauvaise nouvelle pour Aéroports de Paris. Très mauvaise nouvelle pour Aéroports de Paris, j'insiste là-dessus, qui se trouvera bridé dans son développement à un moment où se jouent aujourd'hui les places importantes sur la concurrence mondiale. Et ce serait une très mauvaise nouvelle pour l'économie française parce que, comme vous le savez, nous attendons de la privatisation des aéroports de Paris des ressources nouvelles pour financer des plans extrêmement ambitieux dans l'innovation.
On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de ce grand jury de Gilles Legendre. À tout de suite.
Du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale, député de Paris, Gilles Legendre. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Jeanne de TF1 LCI qui vous pose la première question de cette seconde partie.
La République En Marche cherche son candidat pour les municipales à Paris. Il doit normalement être désigné la semaine prochaine par la commission d'investiture. Mais cette semaine, c'est l'ancien maire du Havre, Antoine Rufenacht, qui nous parle de son ancien protégé, le Premier ministre Édouard Philippe, et qui nous dit que c'est le maire dont Paris a besoin. Est-ce qu'Édouard Philippe est le maire dont Paris a besoin ?
Alors, je dois dire que les Parisiens, quels qu'ils soient, les marcheurs, les élus, n'ont rien compris au sens, peut-être même aux arrière-pensées, de cette entrée subite, soudaine, inattendue d'Antoine Rufenacht dans le débat parisien.
Quelles arrière-pensées ?
J'en sais rien puisqu'on n'y a pas compris.
Ben ça veut dire
par définition.
Pourquoi ?
Donc
peut-être
je n'en sais rien. Alors. Une arrière-pensée, par définition, c'est une pensée
sincère.
Qui se cache.
Il est peut-être sincère.
Il est peut-être sincère.
Mais ça veut dire que le Premier ministre n'a aucune intention de briguer Paris ?
Alors, je vais vous dire les choses de façon extrêmement claire.
Parfait, on attend ça.
Je
parce
suis
que plus grand
en contact régulier avec le Premier ministre pour parler principalement de l'action gouvernementale et de la majorité, mais aussi de temps en temps pour parler de politique. Jamais, vous entendez bien, jamais, il n'a évoqué devant moi sa candidature à Paris.
Il a été surpris par cette tribune ?
Par ailleurs, il est à la tâche. Je vous signale que nous venons d'engager l'acte 2 du quinquennat, qui s'est traduit par une déclaration de politique générale qui, pour moi, prend figure d'un nouveau bail.
Donc
que
nous avons 2022, signé. Donc jusqu'en 2022.
Toute la majorité.
Gilles Lejeune, soyez franc,
pendant
jusqu'au bout clair.
2022, je n'en sais rien, ce n'est pas moi qui désigne le Premier ministre ou qui peut mettre fin à ses fonctions.
Mais il ne partira pas.
C'est une affaire qui regarde le Premier ministre et le Président de la République. Néanmoins, le Premier ministre est venu devant notre majorité. Il a demandé la confiance sur un programme hyper ambitieux. Pas une voix de La République En Marche, pas une, ne lui a manqué.
Donc, Édouard Philippe est au boulot,
nous sommes au boulot, et je pense que les Français attendent que nous fassions le boulot.
Est-ce que vous pouvez dire, non, Édouard Philippe ne sera pas candidat à la mairie de Paris en 2020 ?
Je dis qu'au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas par quelle illumination, même dans l'esprit d'un homme que je respecte sans vraiment le connaître, mais qui, je crois, est un homme respectable comme M. Rufenacht, je ne vois pas comment on peut échafauder une hypothèse de cette nature. Nous connaissons parfaitement les candidats à l'investiture à la mairie de Paris. Ils vont être entendus la semaine prochaine, mardi, par la Commission nationale d'investiture, et le choix se fera.
Un dernier mot sur Édouard Philippe, j'ai déjà... Si Édouard Philippe finit par dire « ça m'intéresse », vous direz « non, c'est une mauvaise idée ».
Non mais attendez, si, alors justement...
On mettrait Paris en bouteille, mais justement...
Cas, on mettrait
mais là,
Paris
en l'occurrence,
bouteille,
ça veut savoir
et l'élection parisienne,
être candidat.
Probablement dans une bouteille de liquide très légèrement alcoolisé. Non, attendez, soyons sérieux. On n'est pas... Vous savez, la politique, c'est quand même pas ça. Le Premier ministre s'est engagé à nouveau vis-à-vis du Président de la République, vis-à-vis de la majorité, dans un travail que nous avons d'ailleurs commencé à mettre en œuvre et qui va connaître son plein régime à partir... On a parlé de la bioéthique.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez l'intention qu'on parle des retraites.
Il est là pour durer, Édouard Philippe. Il est là pour durer, Édouard Philippe.
Pour mettre en œuvre l'acte 2 du quinquennat que nous avons engagé il y a moins d'un mois.
Alors, qui est le candidat pour Paris ? Guillaume Roquette.
Oui, revenons à ton candidat En Marche déclaré. Il n'y en a pas vraiment qui se détache entre Benjamin Griveaux, Cédric Villani. Pourquoi ne pas organiser une primaire ? Pourquoi ne pas laisser les militants choisir ?
Parce que les primaires, c'est l'assurance d'une guerre fratricide.
C'est déjà le cas.
Non.
Ah bon ?
Non. C'est une compétition. Elle existe, elle est saine. À l'intérieur d'un
donc
mouvement.
C'est un peu moins fort que la guerre.
Excusez-moi, Adrien
Jeanne. On essaie de comprendre.
Si vous voulez faire la différence entre compétition et guerre, je pense qu'on doit y arriver
enfin,
assez facilement.
On est plutôt à la bataille.
Trouver des exemples, y compris en politique, qui sont assez parlants. Il n'y a pas eu une primaire, à droite ou à gauche, qui se soit bien terminée. Donc la primaire à En Marche, c'est non.
Qui est votre candidat, vous ?
Alors,
Benjamin Griveaux est-il votre candidat ? Puisqu'on dit que c'est le candidat de l'Élysée, pour être très franc, puisqu'on est là pour
mais
être
moi, je suis pas à l'Élysée.
Ah ben vous êtes à votre place, alors dites-nous vous, qui est votre candidat ?
Alors, il se trouve qu'il y a eu successivement 4 et aujourd'hui 3 candidats à l'investiture, qui sont 3 membres de mon groupe.
Oui.
Ce qui me donne à la fois un devoir, et je dois le reconnaître honnêtement, une forme de privilège, qui est de pouvoir rester totalement neutre, à l'égal d'ailleurs de mon ami Stanislas Guérini, qui en tant que délégué général du mouvement... doit observer la même neutralité.
Qui est neutre, mais ami de Benjamin Griveaux.
Non, ouais. Mais ça, c'est vous qui le dites. Maintenant...
Ah bon, ils ne sont pas amis
si, amis, oui. Mais si vous en concluez le fait qu'ils
j'ai
puissent
conclu,
peser...
J'ai rien conclu,
voilà. Mais vous avez raison. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis ami. Mais je suis aussi ami de Cédric, et depuis très longtemps.
Non, mais on ne comprend
mais, attendez,
pas.
C'est
non,
pas
mais
une question d'amitié.
Gilles Lejeune, Benjamin Griveaux est désigné comme candidat à la mairie de Paris, alors qu'il a face à lui deux candidats qui se sont coalisés récemment contre lui, est-ce que vous pensez qu'il aura la légitimité légitimité pleine et entière.
Dès lors que la Commission nationale d'investiture aura rendu sa décision, quel que soit le candidat, il aura la légitimité. Mais je voudrais rajouter une toute petite chose. Ce n'est pas du tout par lâcheté, certainement pas, ni par respect de la neutralité. C'est aussi que le jour où notre candidat va être désigné, les personnes qui, pendant cette campagne interne, auront observé une certaine retenue, pourront jouer un rôle essentiel dans le rassemblement. Car du jour où le candidat est désigné, nous nous mettons dans une campagne ardente pour gagner Paris.
Vous, nous pouvons gagner Paris, que ce soit Benjamin Griveaux ou Cédric Villani. Ce que vous dites,
je fais confiance à la Commission nationale d'investiture pour prendre la bonne décision. Mais du jour où le candidat est désigné, je suis, j'espère, au tout premier rang
on
des militants.
On reste un petit peu sur la politique. Adrien Gindre.
Puisqu'on est sur les municipales, il y a La République En Marche, très bien, mais vous avez un partenaire qui s'appelle le MoDem et qui est un peu fâché en ce moment parce qu'il voit que les premières investitures ne lui conviennent pas tout à fait. Il y a un exemple qui fait particulièrement réagir, c'est celui de Bordeaux. Un maire sortant Les Républicains, avec un premier adjoint MoDem, qui compte courir dans la même alliance pour l'année prochaine. Or, La République En Marche a investi un candidat en face. Est-ce que c'est bien nécessaire d'aller contre le MoDem dans ces élections municipales ?
Alors, nous ne faisons rien derrière le dos du MoDem. La principale divergence sur les municipales entre le MoDem et nous, c'est une question de calendrier. Et qui peut s'expliquer de façon très simple. Le MoDem est déjà implanté, a déjà des élus. Nous, nous n'en avons aucun, par définition, puisque nous n'existons que depuis deux ans.
Et donc, vous voulez prendre leur place ?
Non, pas du tout. Mais nous devons aller vite. Nous devons rentrer dans la campagne rapidement. Parce que sinon, nous n'arriverons pas à nous implanter. Or, l'objectif de ces municipales, ça n'est pas de rafler un nombre de mairies incalculable, c'est de faire en sorte que notre implantation...
Ce sont vos alliés, Gilles Legendre, pour faire simple. Donc on va contre ses alliés.
Eh bien, je prends un exemple très simple, celui qu'a mentionné Adrien Jeanne. Sur Bordeaux, nous en avons discuté. Stanislas Guérini a des contacts permanents avec François Bayrou, avec Marielle de Sarnez. Ils savaient que nous prendrions cette décision. Ils en ont été avertis. Dans certains cas, ça passe. Dans d'autres, nous entendons ce qu'ils nous disent, disent et nous retenons notre décision. La question du calendrier est pour nous cruciale. Je vous rassure sur une chose, cela n'abîmera pas les relations entre le MoDem et La République En Marche. Je le vois, moi, au quotidien à l'Assemblée nationale, où nous formons quand même l'alliance majoritaire. Je prends régulièrement le petit déjeuner avec le président du groupe MoDem et je peux vous
dire François Mignola, Bayrou aussi. François Bayrou est tout à fait content
François Bayrou, nous nous retrouvons très régulièrement dans les réunions de responsables de la majorité. Qu'il y ait un peu de tension, mais vous savez, l'élection, c'est ça. C'est de la tension, c'est de la compétition, mais ça ne remet rien en cause de fondamental entre nous.
Choisissez-vous d'investir ou non un candidat là à Bordeaux. Il y a un homme qui a été choisi par Alain Juppé, on imagine qu'il est Macron compatible, soutenu par le MoDem, et pourtant vous présentez quelqu'un.
Écoutez, d'abord, Alain Juppé n'est plus dans le jeu bordelais, ça ne vous a pas échappé.
Mais il
est au Conseil constitutionnel. Eh bien oui, c'est un des cas où, en effet, nous aurons chacun notre candidat. Et ça n'est pas grave.
Dites-moi, Gilles Legendre, puisqu'on parle de politique, Nicolas Sarkozy a estimé dimanche qu'Emmanuel Macron avait eu l'habileté de donner le sentiment aux électeurs de la droite qu'il pouvait être une réponse. Est-ce que vous dites que ce président est finalement un président dans la droite ligne de Nicolas Sarkozy, un président de droite ?
En aucun cas.
C'est un président de gauche, c'est un président...
En aucun cas. Le président de la République et la majorité n'ont en aucun cas appliqué une politique de droite depuis que nous sommes au pouvoir. Nous avons un objectif qui démontre parfaitement ce que je viens de vous dire. C'est de faire baisser le chômage. Nous sommes partis de l'analyse que 80% des problèmes en France, y compris les problèmes d'urbanisme, y compris les problèmes de fondamentalisme, y compris les problèmes d'inégalité, résultent d'un chômage de masse dont aucun gouvernement n'avait réussi à venir à bout.
Votre message sera entendu quand vous dites cela, parce que quand on voit aujourd'hui que la richesse des 500 fortunes, des plus grandes fortunes, a augmenté en France de 6% cette année, après plus 25% en 2017, plus 17% en 2018, est-ce que vous ne vous dites pas que sur l'impôt sur la fortune, vous avez fait une erreur ?
Non, nous n'avons pas fait une erreur, parce que dans le même temps, l'économie et la croissance est plus forte que celle de nos partenaires européens. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Et le chômage commence à baisser. Il est à 8,7. L'INSEE nous annonce 8,3. C'est-à-dire que probablement, dans le courant de l'année 2020, nous passerons au chômage à 7 plus quelques dixièmes. C'est-à-dire exactement le cap que nous nous étions fixés.
Donc on maintient la réforme de l'ISF jusqu'en 2022.
nous avons promis d'évaluer cette réforme.
Mais vous
ce qui prouve notre bonne foi.
Mais vous dites finalement ça fonctionne, on gage qu'en 2022.
Ce qui est certain, c'est que l'économie française a redémarré. Oui, ça, c'est vrai.
Notamment grâce à cette mesure.
Notamment grâce à cette mesure, bon, mais à beaucoup, moins, mais à beaucoup d'autres. La réforme du droit du travail, la réforme de la formation et de l'apprentissage, plus 20 000 contrats d'apprentissage depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière.
Et plus 6%, plus 6% d'augmentation des... Ça vous interpelle ou pas, Gilles Lejeune, quand vous dites
mais ça? Mais bien sûr, ça m'interpelle.
Et alors, qu'est-ce que vous dites? Est-ce si qu'ils doivent participer davantage?
On ne gouverne pas en cédant à la démagogie. C'est vrai que ces chiffres claquent. C'est vrai que ces chiffres peuvent légitimement choquer. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce sont les plus grands nombres. Quand le chômage baisse d'environ 10, qui était le niveau où nous l'avons trouvé, à 8-7, la différence, vous croyez que c'est des milliardaires qui s'en tirent? C'est des gens qui, précisément, étaient enquistés dans un chômage interminable. Pour eux, la vie est en train de changer radicalement. Ils retrouvent un job, un revenu. Ils vont pouvoir
Justement, sur les indemnités chômage, Guillaume Roquette.
Oui, dans la réforme de l'assurance chômage, il semblerait qu'il y ait 1 200 000 personnes, ce sont des chiffres de l'UNEDIC, qui toucheraient moins, ou en tout cas qui seraient impactées par cette réforme. Est-ce que vous l'assumez? Est-ce que vous dites oui? L'objectif était de faire des économies, de faire des économies à l'assurance chômage, plus de 3 milliards. Donc, il est normal que les gens touchent moins.
Nous contestons ce chiffre pour une raison très claire. C'est que il n'intègre pas les effets bénéfiques que va avoir l'assurance chômage sur le volume de chômeurs. C'est une analyse statique.
J'ai pas compris.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'UNEDIC fait ce calcul comme si le chômage ne bougeait plus, arrêtait de baisser.
Ah oui, vous dites c'est parce qu'il y aura moins de chômeurs qu'il y aura moins de gens qui...
Il y aura moins de chômeurs. Nous avons une évaluation différente. Elle tient en deux chiffres. Un chiffre que ne conteste aucun expert, et notamment pas un certain nombre d'experts qui se sont penchés là-dessus, je pense notamment au prix Nobel d'économie, Jean Tirole, qui démontre que l'assurance chômage est le dernier pilier de notre politique de l'emploi décisif pour la faire réussir. Et nous estimons à environ 200 000 créations d'emplois nouvelles les effets bénéfiques de l'assurance chômage. Deuxièmement, nous disons très clairement qu'en effet, il y a une petite baisse d'indemnisation quand on rentre dans l'indemnisation.
Pour les plus précaires.
Pour les plus précaires, on allonge la durée d'indemnisation. Le capital de droit est inchangé. C'est simplement pour éviter des abus, notamment le plus criant d'entre eux que personne ne peut justifier, qui faisait que dans le système ancien, on pouvait mieux gagner sa vie en étant indemnisé qu'en ayant un travail. Ce qui est tout de même une offense absolue au bon sens.
Adrien Jeanne.
Gilles Lejeune, dans 10 jours, le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, va présenter ses recommandations. Le Premier ministre a déjà donné un indice au moment de son discours de politique générale. Il nous a parlé d'un âge d'équilibre dans le nouveau système de retraite. Pourquoi ne pas dire tout simplement aux Français, vous allez devoir travailler plus parce qu'on ne peut pas faire autrement, et donc on allonge la durée de cotisation ou on repousse l'âge légal?
Alors, là-dessus, est-ce que vous me laissez 40 secondes pour expliquer les choses?
Surtout que vous avez pris position, je l'ai rappelé en début d'émission, pour 62 ans ferme, on ne touchait pas.
Et que c'est la position qui a été retenue par le président de la République, qui l'a parfaitement expliqué lors de sa conférence de presse du 25 avril. L'âge légal ne bougera pas à 62 ans. Qu'est-ce que c'est l'âge légal? C'est l'âge plancher, la protection minimale. Si vous avez 62 ans et que vous avez toutes vos annuités, c'est-à-dire 42 ans aujourd'hui, vous touchez pleinement votre retraite. Si à 62 ans, vous n'avez pas vos annuités, vous pouvez toucher votre retraite, mais elle est dégradée du fait de l'absence de la totalité de vos annuités. Simplement, ce que nous constatons, et qui est vérifié par toutes les études, c'est qu'à 62 ans, le système ne s'équilibre pas financièrement. Il continue de créer du déficit. C'est la raison pour laquelle nous devons inciter les Français à travailler plus longtemps. Ça aussi, le président de la République l'a dit, et nous y souscrivons. Ça veut dire quoi, travailler plus longtemps? Ça veut dire d'abord, et quand le président de la République avait dénoncé l'hypocrisie du débat sur l'âge légal, il avait raison de le dire, ça la suppose d'abord de faire en sorte que ce qu'on appelle de manière très inappropriée les seniors, parce que j'estime qu'à 60-62 ans, enfin je suis peut-être intéressé dans cette analyse, on est senior. Ça veut dire que les seniors trouvent du boulot. Aujourd'hui, c'est insuffisamment le cas. Sauf que, à ce qu'on s'est dit précédemment, aujourd'hui, le taux d'emploi des seniors redémarre.
Mais vous ne répondez pas à la question, Adrien Jeanne. Parce que finalement, on a l'impression que l'âge légal, ça sera 64 ans.
Mais vous ne pouvez pas dire « on a l'impression
parce qu'en fait, on ne touchera pas une retraite pleine entre 62 et 64 ans.
Nous ferons en sorte que ceux qui acceptent et qui ont les moyens de travailler plus longtemps puissent avoir une meilleure retraite.
Il y aura une décote pour ceux qui partiront entre 62 et 64 ans.
Non, il n'y aura pas de décote. Entre
vous jouez sur les mots, ils ne toucheront pas de retraite pleine, ils pourront
gagner. Ils toucheront leur retraite pleine, aux annuités, mais s'ils veulent améliorer leur retraite, ils devront travailler plus longtemps. C'est aussi simple que ça. Mais
donc il n'y aura pas de décote, ça vous l'assurez aujourd'hui.
Aux annuités payées, salaire 42 ans et 62 ans, vous toucherez votre retraite.
Et vous aurez un bonus si vous allez au-delà de 62 ans?
Ah ben bien sûr,
c'est tout. Donc voilà, donc ça sera une manière d'encourager.
Ah ben oui.
Et mais il n'y aura pas de décote, vous nous certifiez aujourd'hui, entre 62 et 64 ans.
Vous verrez le système exact qui sera proposé, il n'y a plus trop longtemps à attendre.
Est-ce que cette réforme doit être mise en œuvre avant les municipales?
Écoutez, ça, le gouvernement décidera, le Premier ministre et le Président de la République décideront. Cette réforme, il faut quand même revenir à son esprit, si vous voulez bien. Nous parlons constamment des inégalités en France. Il y a trois grandes inégalités. Il y a l'inégalité vis-à-vis du savoir, ce que nous sommes en train de résoudre progressivement avec la réforme de l'école, la formation professionnelle et l'apprentissage. Il y a une inégalité vis-à-vis de l'emploi. C'est la plus grave, parce que d'elle dépend tout, notamment les inégalités de revenus. Nous sommes en train de la travailler en faisant baisser le chômage. Et puis, il y a une immense inégalité vis-à-vis des retraites, qui fait que, selon que vous appartenez à l'un des 42 régimes, vous avez une retraite qui n'a rien à voir avec celle des 41 autres.
Ça, ce sont vos trois points. Maintenant, je repose la question. Est-ce que vous souhaitez que cette réforme soit appliquée, soit votée avant les municipales? Parce qu'on sait qu'il y a visiblement des hésitations.
Il n'y a aucune
hésitation pour l'échéance.
Alors, sur l'échéance, il peut y en avoir, mais qui est très liée aussi à la densité de notre programme parlementaire.
Oui, non, mais d'accord, mais ça peut être une priorité. On nous a dit que
c'est une priorité. Mais je vous rappelle, et il faut le dire à nos auditeurs, qu'en tout état de cause, la réforme ne s'appliquera que 5 ans
mais
après son vote.
Est-ce que vous, municipales?
Je ne souhaite pas. Nous devons caler ça dans le travail parlementaire. Honnêtement, si c'est le premier semestre ou le deuxième semestre 2020, alors même que la réforme a pour ambition de s'appliquer dans 5 ans, cela ne change pas la face du monde.
Donc peu importe que ce soit avant ou après les municipales. Voilà ce que vous venez de nous dire. Guillaume Roquette.
La Commission européenne a négocié avec les États d'Amérique du Sud un accord de libre-échange appelé Mercosur, qui doit maintenant être ratifié par les parlements. Il y a un vrai débat au sein même de votre famille politique. Votre collègue En Marche, Jean-Baptiste Moreau, qui est agriculteur, est très critique. Nathalie Loiseau, votre tête de liste aux européennes, fait part de ses inquiétudes pour les filières agricoles. Est-ce qu'il faut renégocier cet accord?
Alors, débat au sein de notre famille politique, c'est presque une tautologie, hein, Guillaume Roquette. Donc, là-dessus, il y a sur ce sujet, comme sur tous les autres, et heureusement qu'on débat. Cet accord n'est pas prêt à l'emploi. Ça, nous le savons. Contrairement au CETA, qui maintenant, non seulement est prêt à l'emploi...
CETA, c'est l'accord de libre-échange avec le Canada.
Absolument. Et prêt à la ratification qui va avoir lieu le 17 juillet. Après un travail et une étude approfondie sur ces impacts et qui ont démontré, en effet, que les impacts étaient
donc
positifs.
Donc le Mercosur, il faut revoir la copie.
Nous devons faire exactement, pour le Mercosur, le travail que nous avons fait pour le CETA. C'est-à-dire vérifier point par point, en matière sanitaire, en matière de déstabilisation éventuelle des filières, je pense notamment à la filière bovine, et aussi en matière de respect par rapport aux accords de Paris sur l'environnement et la biodiversité, que l'accord tel qu'il a été conclu est absolument en règle avec tout ça. Et ça va prendre un peu de temps. Donc on aura largement le temps d'en reparler. Nous ne prenons pas cet accord tel quel.
Alors Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'est pas en décalage avec vous quand il dit que ceux qui disent que tout accord commercial est mauvais me disent dans ces cas-là comment ils vont s'habiller, s'alimenter, se déplacer? C'est pas exagéré ça?
Le président de la République a parfaitement raison de répondre, d'affirmer que dans l'histoire, toujours, les accords de libre-échange ont apporté une amélioration de bien-être à l'ensemble des parties.
Alors,
c'est le propre du libre-échange, simplement sous conditions. Et ce sont les conditions que nous devons évaluer, et c'est d'ailleurs le président de la République qui a lui-même décidé de soumettre cet accord à une évaluation extrêmement fine et approfondie.
Avant, question nette, question express.
Le grand jury, question express.
Pour ou contre Gilles Legendre, la suppression du concours d'entrée à Sciences Po Paris?
Ah,
c'est pour ou contre, hein, vous n'avez pas le droit ou en même temps?
Eh bien écoutez, moi je suis pour sa suppression, mais c'est assez déchirant parce que comme je l'ai passé et que c'est un des rares motifs de fierté de ma scolarité, je suis juge et partie.
La création d'un ordre des journalistes, vous qui avez été journaliste?
Je suis pour si c'est les journalistes qui le décident, je suis contre si l'État s'en occupe.
Pour ou contre le déremboursement de l'homéopathie?
Je m'en remets à la haute autorité de la santé et donc je suis plutôt contre, mais j'attends avec beaucoup de sérénité une décision qui n'a pas encore été
prise. Plutôt contre.
Contre le déremboursement?
Non, pour le déremboursement.
Ah oui. Pour le déremboursement. Pour ou contre la légalisation du cannabis?
Je suis probablement pour la légalisation du cannabis de bien-être. Je suis assez réservé, assez contre sur le cannabis dit récréatif, ce qui est un mot assez
étonnant. Donc pour
étonnant.
Thérapeutique,
mais pas le pétard.
Vous avez jamais fumé, vous par exemple, polymère. Le genre, on vous pose
non.
Jamais.
Non,
mais c'est votre
j'ai
droit.
J'ai une
hein,
science pro, mais j'ai jamais fumé.
Vous avez jamais
fumé. Je suis désolé.
Bon,
mais attendez, là-dessus, j'ai quelque chose à vous dire. Ça fait typiquement partie des débats sur lequel l'engagement politique peut vous faire évoluer et vous faire changer. Nous allons lancer une mission sur le cannabis au sein de l'Assemblée nationale, précisément pour aller au fond de cette problématique.
D'ailleurs, vous ne dites pas cannabis thérapeutique, vous dites cannabis de bien-être, ce qui élargit un petit peu peut-être le champ de légalisation.
Oui, ma science récente qui est d'enquête, j'ai l'impression que je suis un petit peu en avance pour vous, sur vous quand même. Il y a le cannabis qui rentre dans les médicaments, c'est un médicament. Il y a le cannabis dit de bien-être, qui n'a rien à voir avec la fumette, qui sont des huiles, qui sont des choses qui vous permettent de vous déstresser, etc., qui sont peut-être acceptables. Et puis, il y a le cannabis qu'on dit récréatif. Je n'aime pas beaucoup ce terme-là.
Celui-ci, je crois que tout le monde l'entend, ou beaucoup comprennent ce que c'est.
Voilà.
Gilles Legendre, on passe à question nette.
Le grand jury, question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous. Bonjour Gilles Legendre.
Bonjour.
Alors, vous avez prononcé une phrase qui vous poursuit encore. C'était en pleine crise des Gilets jaunes. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Vous avez estimé que les marcheurs ont, je vous cite, probablement été trop intelligents, trop subtils, trop techniques. Et encore aujourd'hui, en direct pendant cette émission, dans les commentaires, on continue à vous reprocher cette phrase. Christine, elle vous dit attention, elle ne vous comprend pas parce qu'elle n'est pas aussi subtile que vous. Elle ironise beaucoup. Même reproche pour Emmanuel. Et Ludovic, lui, il trouve que vous ne faites tout simplement pas partie de son monde. Donc vous avez fait amende honorable depuis. Est-ce que maintenant vous vous rendez compte de l'importance des mots?
Je m'en étais rendu compte avant, ne serait-ce que parce que pendant 21 ans, j'ai exercé votre métier. Donc, je sais l'importance des mots.
Vous avez trouvé la réaction des internautes violente par rapport à ce que vous avez dit?
Elle l'était, mais elle était probablement méritée. Vous savez, Lénine, qui n'est pas ma référence absolue, disait « les opinions sont des faits ». En l'espèce, les opinions étaient des faits. Le contexte dans lequel je l'ai dit n'est pas une excuse, mais une explication. J'avais expliqué qu'en effet, sur les mesures de pouvoir d'achat, notamment les étalant dans le temps, nous avions commis une erreur en pensant que nous serions immédiatement compris et suivis. Ça n'a pas été le cas. La formule était malheureuse. Je vois en revanche qu'elle a une durée de vie exceptionnelle. Elle m'a valu le prix de l'humour politique.
Ah, c'est déjà ça.
Alors, c'est quand même pas si mal.
Autre question.
Oui, cette fois-ci, c'est sur le projet de loi pour lutter contre les contenus haineux sur Internet. Il est actuellement présenté à l'Assemblée. Et jeudi, les députés ont voté pour la création d'un observatoire de la haine en ligne. Donc l'objectif, c'est vraiment de supprimer tous les contenus haineux en 24 heures. Sauf que les internautes ont été très étonnés et déçus de ne voir qu'il n'y avait que 36 députés présents pour voter cet amendement sur 577. Alors, il y a eu plusieurs commentaires, justement, sur, par exemple, Nadine qui vous dit « La seule issue pour cette loi, c'est un nouveau suffrage avec la totalité des députés cette fois-ci présents. » Les Français ont toujours été surpris et étonnés de l'absentéisme des députés. Est-ce que là, ça ne vous choque pas?
Je refuse le terme d'absentéisme des députés. Le travail.
C'est un projet de loi aussi essentiel pour le gouvernement.
Alors d'abord, il n'y a pas de. D'abord, ce n'est pas un projet de loi. C'est une proposition de loi qui est venue de nos rangs, en la personne de Laetitia Avia, et qui fait notre fierté. Et je me tourne vers mes collègues ici. C'est une grande fierté d'avoir engagé cette réforme.
Sur l'absentéisme?
Eh bien, sur l'absentéisme, un député n'est pas cloué à son siège dans l'hémicycle. Un député, il est en commission. Un député, il est dans sa circonscription.
Vous trouvez ça normal qu'il n'y ait eu que 36 députés présents?
Il est normal, et d'ailleurs, le groupe majoritaire était bien plus représenté que le groupe d'opposition, et je ne leur fais pas grief, pas plus à eux qu'à nous. C'est comme ça que nous fonctionnons à l'Assemblée nationale. Il faut dire la vérité aux Français, ça n'est pas parce que les députés ne sont pas dans l'hémicycle qu'ils ne travaillent pas.
Merci Gilles Legendre, c'était votre grand jury. Quelques remerciements sur cette dernière émission de la saison. Merci à nos partenaires, bien sûr, Le Figaro LCI. Merci à Catherine Mangin, à Chantal Busson pour son aide précieuse, leur aide précieuse, à Julia Denoyel pour la question en plus. Merci aussi à Catherine Chevillon, toujours aussi indispensable. Enfin, merci bien sûr aux équipes travailleuses du dimanche qui rendent possible cette émission en régie. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Très bel été à tous.